Axel Hotel présente. Radioscopie de la peur.
J'espère qu'on n'est pas venu au cinéma tout seul.
Un documentaire de Guillaume Istas.
Oh God, help me, please! Can you hear me?
Comme vous vous en rendrez compte au cours de cette séance, les esprits des morts sont présents partout.
Réalisé avec le soutien de la RTBF et de la SACD.
Peut-être même qu'en ce moment, un esprit est assis à côté de vous.
Est-ce que tu as peur?
Une production Axel Hotel.
J'ai peur.
On est dans les années 80. J'ai 11 ans. J'entre dans le vidéoclub. Au fond à gauche se trouve un rayon interdit aux moins de 16 ans. Le rayon des films d'horreur. Je m'en approche prudemment. Le loueur du vidéoclub me regarde. Il trouve mon attitude suspecte. J'aperçois les jaquettes. Je lis les titres. Massacre à la tronçonneuse, les griffes de la nuit, cannibale holocauste, la dernière maison sur la gauche, les frissons de l'angoisse, le bal de l'horreur, la nuit des morts vivants. Les images à l'arrière des jaquettes me font entrevoir un monde d'une barbarie absolue. Et pourtant, une irrépressible envie me pousse à toutes les regarder. Et je vois des monstres sanguinaires, des victimes suppliciées, des femmes écorchées, des visages effrayés, des enfants démoniaques, une hache dans un crâne, une femme qui crie, des zombies la bouche pleine de sang, des yeux exorbités, des chairs mutilées. 2012, on est 30 ans plus tard et rien n'a changé. J'aime toujours autant regarder les films d'horreur. Est-ce pathologique? Suis-je un ado attardé? Un sadique qui s'ignore? Un psychotique endormi? Un maniaque de la boucherie? Un insensible aux horreurs de ce monde? Un bouffeur de viande compulsif? Un être dont la vie est tellement plate qu'il se gave de grands frissons? Quel besoin ai-je de regarder des films d'horreur? Pourquoi j'aime avoir peur? C'est grave, docteur?
Je pense qu'il est bon de différencier...
Alex Lefebvre, professeur de psychopathologie.
Angoisse, peur, effroi. Je dirais que la peur est liée à un objet perçu. Perçu dans, actuellement, au moment même, ou potentiellement percevable. Elle est liée à un objet. L'élément le plus classique de ça, c'est ce qu'on appelle les phobies. Les peurs de. Peur des gros objets, peur de petits objets, peur des gros animaux, peur des petits animaux, peur éventuellement beaucoup plus archaïque de la restriction de l'espace, ou au contraire de l'enfermement, ou au contraire du grand espace. Ça différencie de l'angoisse qui est quelque chose en général de très flou, d'interne, qui est une espèce de malaise, de mal-être, dont on ne sait pas d'ailleurs d'où ça vient, où ça va, parce que ça n'a pas d'objet, une angoisse. C'est quelque chose qui nous traverse, qui nous habite, qui nous déborde, qui fait que finalement on est mal, mais on ne sait pas à cause de quoi on est mal. L'effroi, c'est la situation typique de... C'est comme si on n'avait plus de physique et plus de psychisme. C'est-à-dire qu'on est figé sur place. Dès le moment où on peut localiser dans le monde extérieur un objet qui serait, ou qui est, ou qui pourrait être à l'origine de notre peur, on va pouvoir développer des mécanismes pour traiter cet objet en l'évitant, en développant des rituels. On connaît ces rituels face à l'objet phobique, qui peuvent être des rituels comportementaux, des rituels de langage, On connaît toutes ces petites comptines d'enfants quand on passe, si on a peur des chiens par exemple, ces petites comptines du style « grand chien, méchant chien, passez votre chemin ».
Légèrement honteux de mes occupations déviantes, je pars en quête d'êtres qui partageraient ma passion. Sur ma route, je rencontre l'écrivain Thomas Gunzig. Il a écrit un livre qui s'appelle « 10 000 litres d'horreur pure », qui est un véritable roman d'horreur, mais aussi un hommage au genre.
J'adorais aller louer des cassettes VHS au vidéoclub près de chez moi. J'avais envie de louer ces films qui traînaient dans les coins du vidéoclub avec des jaquettes ahurissantes, avec des monstres, des filles à moitié nues, des machettes. Et...
Je rencontre aussi le cinéaste Fabrice Duez, dont le premier film, Calvaire, reprend les codes du genre horrifique et raconte une histoire effrayante de séquestration.
À l'époque, on n'avait pas accès à ces genres de films aussi facilement. Il fallait les trouver, il fallait les chercher, et on s'échangeait les VHS. Et donc on découvrait, on avait le plaisir de la découverte, c'est-à-dire qu'il y avait des films qu'on pistait.
Et enfin, je rencontre Noël Godin, terroriste pâtissier. Il est, comme il aime à le dire, un cinéma-boule, c'est-à-dire un dingue de cinéma. Je l'ai croisé à maintes reprises au Festival du film fantastique et c'est un amateur du genre depuis son adolescence.
Aimer les films d'horreur, comme d'ailleurs tous les films de genre, c'est infiniment adolescent. Il y a tellement d'artistes nombrilesques qui font la pluie et le beau temps dans le cinéma que pour moi, le cinéma est pourri par un intellectualisme abscon et par ses prétentions. Tandis que le film de genre, c'est l'adolescence, c'est l'esprit de fantaisie qui duelle contre l'esprit de ratitionnisation.
Nous allons nous arrêter ici.
Maman!
Putain!
Je sais pas pourquoi, moi je tripais assez sur les films à petit budget italiens à un moment. Ce côté fait à la va-vite où on est sûr de nouveau de voir une fille à poil à un moment ou à un autre, une belle italienne dans un bateau à moteur.
On me conduisit complètement nue, comme une bête qu'on mène au marché, devant Rumuani, au centre du Chapoun, où toute la tribu était réunie.
Ça m'a toujours fait marrer, moi, les scènes de viol de belles blondes italiennes par des sauvages mal peints.
Gopa
Grandonino quoi.
J'ai loué aussi des films d'horreur et autres, parce que là, il y avait quand même de temps en temps des scènes de cul un peu osées, tu vois. On voyait de temps en temps une fille à poil. Quand on est gamin, on n'ose pas louer des films érotiques, hein, parce qu'on a peur de passer pour un con aux yeux du loueur de vidéos. Toi, tu le faisais, moi, je n'osais pas. Même à 15-16 ans, je n'osais pas louer des films de cul. Moi, j'ai été élevé dans une espèce de milieu un peu intellectuel où la notion de bon goût était importante, où il y avait vraiment une dichotomie entre... ce qui était bien et intéressant, et ce qui était bête et qui n'était pas. Et évidemment, j'ai été très rapidement intéressé par ce qui était bête et qui n'était pas de bon goût. Donc c'est vrai que rapidement, la musique classique, les jouets en bois et le cinéma suédois, j'en ai très très vite marre. Oui, je regardais ça avec mes parents, comme d'autres gamins peuvent aller à la messe un peu, hein, en bâillant et en se disant « bon ». Je savais qu'il y avait l'espèce de monde sombre des gens idiots et bêtes et cinglés et de mauvais goût. Et pendant tout un temps, quand on est petit, on répète ce que ses parents disent. Et puis quand on grandit et que les hormones prennent un peu le dessus, ben on prend un peu le dessus sur la morale que ses parents t'ont inculquée.
La peur commence souvent avec les récits de contes de fées. Et je me rappelle comme j'avais peur du grand méchant loup, hein, le petit chaperon rouge, ou même les bras petits cochons, ou des sorcières. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que notre rapport à la peur peut totalement changer. Je suis devenu un grand fanatique des loups-garous et des grands méchants loups de toutes sortes. Je collectionne toutes les versions de petits chaperons rouges. Et les sorcières qui me faisaient tellement peur, et parfois quand je voyais des vieilles femmes qui avaient quelque chose de sorcière, ils étaient tout petits, elles se paniquaient totalement. Je suis passé dans le camp des sorcières totales. Et pour moi, les loups, les sorcières et les vampires sont des êtres très fréquentables en soi. Il y a pas mal de monstres sympathiques qui pourraient devenir de formidables alliés contre le capitalisme et notre société actuelle.
La peur, elle est structurante. C'est une des raisons pour laquelle il faut souvent dire aux parents « N'essayez pas de lutter trop massivement et trop vite contre les peurs de l'enfance. » L'enfant a besoin d'avoir des objets de peur. Ça lui permet de construire une chose essentielle qui est la différence entre un monde interne et un monde externe. Et dès le moment où la notion de perception travaille, on perçoit un objet dans le monde extérieur, on sait que c'est à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc on peut à ce moment-là mettre ça en travail et se dire « c'est pas à moi tout à fait que ça arrive, c'est cet objet externe, etc. »
Faites-moi peur.
Vous avez vraiment envie de claquer des dents? Vous avez vraiment envie de claquer des dents? Hein? Vraiment? Non, attention, vous allez vraiment, mais vraiment claquer des dents. Vous voulez voir ça? Vous êtes prêts, là?
Qu'est-ce que vous faites?
Je dois dire que ma plus grande émotion au cinéma à l'époque, quand j'étais encore gamin, bien le film qui m'a quasiment traumatisé, alors que j'allais très très mal, il m'a d'ailleurs guéri, c'est La danse macabre d'Antonio Margheriti, c'était signé Anthony Dyson, qui raconte un Paris que le personnage principal, incarné par Georges Rivière, fait avec Edgar Poux. C'est de passer une nuit dans une maison absolument vide, alors que ça sera la nuit des morts. Il est tout seul dans cette maison, et la peur monte, et je n'en pouvais plus, je grelottais de peur, et j'étais un peu inimaginable. Et puis, un autre monde s'ouvre avec Barbara Steele.
Did my brother send you?
Qui apparaît totalement fantomatique et dont le personnage tombé éperdument amoureux.
Elizabeth! Elizabeth!
Alors qu'elle est morte, l'amour fou avec une morte.
We must escape together.
I can't. No. No, please. I can't go with you. No, Ellen, I'm dead. I'm dead. Goodbye, Ellen.
J'en suis encore à peine remis. Et ce film a été une véritable thérapie pour moi, comme j'étais pas très bien en entrant dans la salle, et après, je ne pensais plus qu'à ça. Je me suis rendu compte que je préférais le cinéma à une réalité aplatissante. Le cinéma l'emportait sur la négativité, entre guillemets, de la vie, car il est rarement arrivé que je sois cafardeux et que je ne sois pas de belle humeur.
Nous tournons un documentaire sur la sorcière de Blair. Vous croyez que c'est possible qu'elle soit encore là-haut?
Oh, je vais jamais là-haut.
Jamais?
Ouais, non, j'aurais bien trop peur de tomber sur elle.
Là où j'ai vraiment eu peur, c'est-à-dire c'est même la vraie peur, c'est pas là où t'es pas saisi, c'est juste oh, putain, t'as peur pendant longtemps. Bah, il y a eu quand même Blair Witch.
Bon, enregistre ça sur DAT.
Il y a le côté très réaliste, hein. C'était un des premiers films qui a été fait comme ça, où on se servait de toute l'imagerie amateur filmée au caméscope.
Eh oh,
le côté documentaire qui a donné un effet de réel très puissant à ce qui se passait.
Eh oh, y a quelqu'un?
Merde, on voit rien.
C'est tout autour de nous. C'est vraiment bizarre.
Dès le moment où on perd ses repères perceptifs, l'angoisse vient. Il y a une perte de perception. Alors où est-on ramené?
Josh! Merde, Mike, on est toujours resté à portée de voix. Josh !
Allez, calme-toi.
Comment je peux ?
Je trouvais qu'ils avaient très bien réussi dans le projet Blair Witch, ce mariage entre quelque chose qui a l'air tout à fait réel et quotidien, et le fantastique. C'est une des plus belles définitions du fantastique, hein, qui est l'irruption du surnaturel dans le monde réel.
Josh !
Josh !
Pour que ça fonctionne, le surnaturel peut être n'importe quoi, mais la réalité doit être vraiment bien rendue. Dès le moment où dans un film, la réalité ressemble pas trop bien à la réalité, où on n'y croit pas, on s'en fout du surnaturel qui va arriver.
Qu'est-ce que c'était ? J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir.
Perturbe toujours profondément, c'est les dérèglements psychologiques. Je suis terrifié par ça, je suis fasciné par ça. Les dérèglements comme chez Polanski, dans les premiers Polanski, ou plus proche de nous, Antichrist, ou Shining.
Jack ?
Je dirais même Shining, le moment qui m'a fait le plus peur, c'est le moment où sa femme découvre le manuscrit qui tape depuis des mois et voit qu'il ne fait que répéter une seule phrase sur tout le manuscrit. Pendant des mois, il a écrit que cette phrase-là. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ?
Ouais, ça me fait vraiment peur.
Te fais-tu du souci pour moi ?
Oh, évidemment, je m'en fais !
Évidemment, tu t'en fais. Et mes responsabilités à moi, tu t'en es jamais soucié ? T'est-il arrivé de songer un moment dans ta vie à mes propres responsabilités ? T'est-il arrivé de réfléchir, ne fût-ce qu'un seul, un tout petit moment, à toutes mes responsabilités ?
La folie, le basculement dans la névrose, dans l'obsession.
T'es-tu jamais interrogé sur ce que deviendrait mon avenir si je n'étais pas à la hauteur de mes responsabilités ? Y as-tu vraiment songé ? Réponds !
T'approches pas de moi !
En fait, c'est toujours la même scène qui me perturbe, qui me fascine vraiment, c'est la scène de l'escalier.
Pourquoi ?
C'est la scène où Nicholson monte et elle recule. On la voit pas et puis elle est bord-car et elle apparaît et puis il y a cette batte de baseball qui chasse Nicholson.
T'approche de moi ! Je t'en prie ! Mais fais pas le mal !
Je ne te ferai rien.
T'approche de moi !
Wendy, ma chérie... Éclatante lumière de ma vie, je ne te ferai rien. Tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Je disais, je ne te ferai rien. Je vais simplement te défoncer la gueule. Je vais te faire un grand trou par où je t'enfilerai.
En fait, c'est une scène qui vraiment me terrifie. Alors t'expliquer pourquoi, bah, je sais pas, parce que t'as toute la folie de Nicholson qui prend le pas. Et t'as toute l'impuissance de Shelley Duvall qui est désemparée, mais vraiment désemparée, qui est dans un état...
La peur, c'est quelque chose d'indicible, on sait même pas de quoi on a peur. On a quelque chose qui te dépasse un petit peu, comme ça, c'est quand ça se connecte peut-être effectivement avec... tes angoisses profondes, genre la peur de la folie des gens de ta famille, ou la peur des enfants. Moi j'ai peur des enfants quelquefois, mais tu sais, des enfants qui deviennent dingues, à tel point que quelquefois quand je vais la nuit, quand je reviens tard et que je rentre dans une chambre où il fait tout noir pour aller embrasser l'un ou l'autre de mes enfants, quelquefois j'ai peur qu'il me saute à la gorge, tu vois, ou que ça pue lui dans le lit, ou qu'il soit changé.
Mathieu, crois-moi, il se passe quelque chose. Quelque chose qui me fait peur.
Ça restera un des trucs les plus effrayants dans les films fantastiques quand des membres de notre famille sont métamorphosés.
Je suis allée voir Geoffrey à son cabinet aujourd'hui, je voulais lui parler. Le matin, il y est toujours. C'était vraiment bizarre.
Tout d'un coup, qu'on ne les reconnaît plus.
Geoffrey rencontrait de drôles de gens.
Qu'elles viennent d'ailleurs et qu'elles ont de toute évidence de fort désobligeantes intentions.
Partout où il allait, il avait rendez-vous avec des drôles de gens.
Ces films, dans leur scénario et dans les images, représentations qu'ils nous proposent, nous renvoient à des univers psychotisants. Je pense que c'est assez banal que d'être un tant soit peu inquiet quand on est plongé dans un univers fantasmatique de cet ordre-là, d'avoir éventuellement des inquiétudes, mais est-ce que je ne fonctionne pas un tout petit peu comme ça aussi, puisque j'y suis sensible, et que même éventuellement ça m'amuse, ça me plaît, j'ai envie d'y retourner. On pourrait penser que je suis construit comme ça aussi, et que je suis un peu psychotique. Mais c'est pas nécessairement inquiétant d'être un peu psychotique, au contraire, c'est parfois très adaptatif. Quand on est confronté à un monde qui est violent, dichotomique, etc., il faut fonctionner un peu de manière psychotique, c'est-à-dire qu'il faut cliver, il faut savoir repérer les mauvais objets et les bons objets, et ne pas se mettre en risque. De même que la paranoïa, il faut quand même s'inquiéter. Si on traverse la rue, il faut quand même s'inquiéter des objets qui pourraient nous écrabouiller. Sinon, si on croit qu'on est l'homme invisible ou qu'on est l'homme immortel, bah, on va vraiment mourir réellement, d'une certaine façon.
J'adore me faire peur au cinéma, dans le confort. Je pense que c'est vraiment le kiff ultime, en fait. C'est d'avoir peur, bien confortablement installé dans une salle noire, quoi. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore profondément, que j'adore expérimenter. Je suis en recherche de ça, hein, tout le temps.
Je veux pas voir ça. Ça me rend malade. Linda. Linda. Je veux m'en aller.
On sait qu'on va au cinéma pour vivre des émotions, mais en les vivant semblant, on n'est pas dedans. Mais activer ça sans danger, puisque on sait que c'est du cinéma.
J'ai eu peur dans un vieux film que j'avais vu à l'époque et que je revois encore aujourd'hui. Il y a une scène très effrayante dans ce vieux film, c'est La Maison du Diable, un film en noir et blanc comme ça. Et tu as une scène génialissime où tu as les deux femmes terrorisées dans une chambre et tu as la porte, on frappe à la porte, des coups violents comme ça. Oui, c'est ça. Et puis la porte gondole un peu, enfin elle grince en tout cas. Et puis ça s'éloigne, ça revient, et c'est juste une terreur comme ça sonore, pure, c'est que ces coups contre la porte. Une fois que je suis dedans, j'ai mis au point ta technique. Donc moi, me boucher les oreilles, c'est... Parce que je suis plus vite saisi par le son des choses que par les images. Donc quand je commence à avoir peur, quand je vais au festival de films fantastiques et que je sens que je suis dans un truc qui va être terrible, j'ai vite tendance à me boucher les oreilles. Comme ça, je peux continuer à voir ce qui se passe, mais je suis protégé du son, heureusement. Je suis sensible au son.
Arrête, c'est du cinéma, c'est pour rire. C'est peut-être du cinéma. Il est quand même monstrueux. Il me donne envie de vomir. Bon, d'accord. La prochaine fois, je t'emmènerai voir un Walt Disney.
Aller se faire peur, c'est à la fois, d'une certaine manière, contrôler une situation qui nous permettrait de nous replonger dans quelque chose qui a toujours une part d'inconnu, mais dont on peut un tant soit peu maîtriser à la fois l'objet, le scénario, le déroulement, et en ayant la capacité, une certaine liberté, de partir si ça nous fait vraiment trop peur.
Regarde, je t'en prie. Je veux m'en aller tout de suite. Va-t'en si tu veux, moi je reste.
Mais à un certain moment, c'est comme si on ne savait plus tout à fait que c'est du cinéma. C'est en cela d'ailleurs que l'image est beaucoup plus sensible et potentiellement inquiétante avec des enfants, c'est-à-dire justement avec des psychismes qui n'ont pas encore assuré suffisamment la différence entre le monde interne et le monde externe. Et qu'il y a là des fragilités qui peuvent faire que ça détruit l'enveloppe psychique qui permet justement de se dire « bon, ben ça se passe à l'extérieur et pas à l'intérieur ».
Vous avez de grands yeux.
C'est pour te voir dans le noir.
Grand-mère, que vous avez de grandes dents.
C'est pour mieux te dévorer.
Nous avons des scénarios mentaux qui sont basés sur des structures assez fondamentales, par exemple d'une angoisse archaïque d'être dévoré. Et je pense que nous avons tous des angoisses de dévoration, d'être dévoré, que parfois nous renversons complètement en voulant manger l'autre.
Hein. D'où vient cette odeur ?
Qui n'a pas, vis-à-vis d'un bébé, dit « t'es tellement bon, tu sens bon, je te mangerai bien ».
Ça sent la chair fraîche.
Tous les films d'horreur, je parlais tout à l'heure d'Alien, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on va se faire dévorer.
Ah, attention, salut.
Et ce qui est intéressant avec Alien, c'est qu'à la fois on se fait dévorer de l'extérieur... et qu'on peut se faire dévorer de l'intérieur. L'alien, il nous mange de l'intérieur. Donc il y a des gestes double versant de la peur de dévoration. C'est souvent des peurs orales, au sens de l'oralité, de la bouche notamment. Pourquoi ? Parce que c'est là que c'est le plus archaïque. Le premier vécu de tout humain, c'est le vécu d'un rapport oral à la mère. C'est le nourrissage. C'est ce grand besoin fondamental qui est celui d'être alimenté, de s'alimenter.
Une des plus grandes frayeurs de l'homme a pour cause des choses plus petites que lui.
Si on réfléchit à ce que sont les objets phobiques, c'est toujours des objets qui attaquent d'une certaine manière l'enveloppe contenante de notre intériorité par rapport à l'extériorité.
Déjà petite, elles nous faisaient peur. Mais maintenant, elles sont plus grandes que nous.
Ce sont des objets qui piquent.
Notre ville est attaquée par des araignées géantes.
Ce sont des objets qui trouent.
Arak, attaque.
Ce sont des objets qui mangent. Ce sont des objets qui nous bouffent. Ça réveille alors une angoisse interne qui est celle de « il n'y a plus rien, c'est le vide, c'est l'anéantissement ».
Préparez-vous pour un tourbillon de terreur.
Productions d'horreur semblent traduire de puissantes inquiétudes sur la production de la psyché individuelle.
Les monstres issus des films d'horreur incarnent la violation de catégories culturelles établies.
Dans son principe, le film d'horreur est fondamentalement hyperbolique.
La problématique de l'angoisse sociale s'est refusée.
Curieusement, ce genre qu'est le film d'horreur a suscité beaucoup de littérature, d'analyse politique, d'exégèse philosophique, d'études psychanalytiques, d'approches sociologiques, sémiologiques, anthropologiques, méthodologiques, historiques, matérialistes. Ce genre, cantonné en général au rang de série B, voire Z, ne serait donc pas qu'une machine à sensations digne d'être un fantôme. Ces films reflèteraient aussi des problématiques complexes du monde dans lequel nous vivons. Par exemple, Robin Wood, éminent critique de cinéma en Angleterre, dit ceci.
Les films d'horreur sont des projections cauchemardesques de notre inconscient collectif.
Ne sont-ce pas là des délires d'universitaires? Une manière de rendre honorable leur goût pour un genre déviant? Du blabla pour cacher ce qu'ils sont vraiment? Des ados attardés? Ces films d'horreur, en fin de compte, ont-ils vraiment quelque chose à nous dire? Regardons ça de plus près. Dans les années 50, débarque une série de films mettant en scène des invasions extraterrestres au moment même où les États-Unis sont obsédés par la menace de l'infiltration communiste.
1952, une vague d'infiltration communiste menace les fondations de nos idéaux américains. Ils ont pour mission de laver le cerveau de tout bon patriote. Ils viennent d'un monde à l'agonie. Ils ont traversé l'espace mu par l'instinct de survie. Ils s'adaptent et ils survivent. Des profondeurs de l'espace, la graine est plantée. L'invasion des profanateurs de sépultures. Pour reconnaître un communiste, l'apparence ne compte pas. Si une personne ne fait que lire ou exprimer les points de vue d'un magazine communiste, c'est peut-être un communiste. Mais il y a des communistes qui ne montrent pas leur vrai visage. Ils œuvrent en silence.
Je n'arrête pas de voir ces gens. Entre eux, il y a une connivence. Il me semble qu'il se passe des informations. Je ne sais pas, un secret. C'est une conspiration, j'en suis convaincue.
Once inside, une fois à l'intérieur.
Attention !
Oh nom de Dieu ! Nom de Dieu !
Ils arrivent ! Oui, je vous en prie, ils arrivent ! Ils arrivent, écoutez-moi !
Secret Soviet agents. Les agents des services secrets soviétiques pénètrent n'importe quelle ouverture de l'oncle Sam.
Vous allez y passer, vous aussi votre tour viendra. Vous êtes en danger, je vous en prie, écoutez-moi, c'est affreux. Aidez-moi, votre tour viendra, ils sont là, ils sont déjà là. Aidez-moi, votre tour viendra, ils arrivent.
Government, commerce, Hollywood. Commerce, gouvernement, Hollywood. Et la plus prisée par Moscou, le système scolaire américain.
The Reds have spent years.
Les Rouges ont passé des années à recruter des enfants pour en faire des super espions.
Tous ces enfants veulent s'habiller de la même manière, et ce que l'un apprend, ils le savent tous.
Les socialistes infiltrés parmi nous cherchent à provoquer un changement graduel de notre système en détruisant petit à petit les principes de propriété privée pour les remplacer par le principe de propriété collective.
Ces êtres sont dirigés par un cerveau collectif. Une nouvelle forme de vie humaine du genre des colonies de fourmis ou d'abeilles.
After months of rigorous training, après des mois d'un entraînement aussi intensif que criminel, ces soldats prépubères sont envoyés en Amérique où ils intègrent rapidement les grandes écoles à travers tout le pays.
Ce qu'il importe de savoir, c'est s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Et ces enfants-là sont mauvais.
Il faut que vous compreniez que nous sommes décidés à nous défendre et que vous ne pouvez pas contrecarrer notre volonté. Il faut que vous appreniez à nous laisser vivre en paix. Nous devons continuer à vivre.
Welcome to a night of total terror.
...1968, la nuit des morts vivants.
Night
la nuit
of the living
des morts vivants.
Nous avons maintenant la preuve que des êtres récemment assassinés ont retrouvé peu de temps après la vie et ont immédiatement attaqué d'autres personnes. Tous les morts, non ensevelis, reviennent à la vie, recherchant de nouvelles victimes.
Le film raconte un groupe de survivants assiégés dans une maison par des zombies.
Il y en a une bonne dizaine qui approchent de la maison.
Ils sont déjà plus nombreux que tout à l'heure. Bon, je vais vérifier la porte derrière.
Voici ce que Jean-Baptiste Auret dit à propos de ce film dans un essai intitulé « Ils sont comme nous ». Le film se fait l'écho des bandes d'actualité tournées au Vietnam. Noir et blanc granuleux, cadre insolite et instable, distorsion de l'image, raccord approximatif, le film de Romero présente tous les stigmates du reportage de guerre.
Get just scared every time. And it gets worse.
Tu as tout le temps peur.
closer they get, the more they throw.
Plus ils s'approchent et plus ils te tirent dessus. Et plus tu as peur. Puis tu te lèves, heureux d'être encore en vie.
Ils sont capables de tout. Ils ont renversé notre voiture sur la route. C'est à peine si on a eu le temps de s'échapper.
Dans le film, le groupe de survivants est assiégé par des zombies affamés. Dans la réalité, les émeutes raciales mènent les États-Unis au bord de la guerre civile.
Toute la nation noire doit se mettre ensemble.
Seulement, ils ne seront pas 5, ni même 10, mais ils seront 20, 30, peut-être même une centaine à venir. Ils savent que l'on est là.
And we're gonna walk on this nation. Et on va marcher sur cette nation. On va marcher sur ce pouvoir raciste.
Ils passeront en force pour nous envahir.
And we're gonna say to the whole damn... Et on dira à tout ce putain de gouvernement...
Pick 'em up, motherfucker.
Dégage, on prend ce qui nous appartient.
Ces êtres sont trop dangereux. Ils tuent n'importe qui.
Jamais aux États-Unis ils n'avaient vu une pareille férocité et qu'il y avait eu certainement plusieurs morts et plusieurs dizaines de blessés au cours des combats.
Les zombies ont remplacé les contestataires et leurs slogans révolutionnaires. Il n'est plus question ici d'idéal ou de pensée subversive, mais uniquement d'instinct de survie.
Carré. Oh bébé.
À la fin du film, une mère se fait manger par sa fille zombie. Comme si la nouvelle société voulait dévorer l'ancienne.
Le film que vous allez voir raconte la tragédie vécue par un groupe de 5 jeunes. Leur balade entre amis par cet idyllique après-midi d'été se transforma en cauchemar. Les événements de cette journée devait mener à la découverte de l'un des crimes les plus bizarres des annales de l'histoire des États-Unis, connu sous le nom de Massacre à la tronçonneuse.
Selon Jean-Baptiste Auret, Massacre à la tronçonneuse est une photographie monstrueuse de l'Amérique de 1973. Des jeunes, issus de la culture hippie, vont se perdre dans une Amérique dépressive.
Tu vas où, comme ça?
Vers le sud.
C'est là que tu bosses?
Non.
Alors qu'est-ce que tu fiches dans le coin?
Je viens d'aller faire un tour à l'abattoir. Mon frère, il travaille ici. Mon grand-père aussi. Ma famille a toujours travaillé dans la viande.
Et dis-moi, t'es déjà entré dans la pièce où ils tuent les animaux? Et maintenant, ils leur envoient une grosse pointe dans la tête.
Ce truc-là, ça vaut rien du tout. L'ancienne méthode avec la masse, c'était chouette. Et les bêtes crevaient mieux qu'avec le foutu pistolet dont tu parles. Avec ces trucs, il y a bien moins de boulot dans la région.
Les jeunes tombent sur un autostoppeur qui se révèle faire partie d'une famille dégénérée au chômage qui travaillait dans le temps aux abattoirs. Cette famille, on peut la voir comme une vision cauchemardesque de l'Amérique des perdus. Ce qu'il reste des raisins de la colère. Une Amérique laissée sur le bas-côté, rurale, oubliée.
Cœur ?
Les jeunes vont être les uns après les autres massacrés, découpés, accrochés à des crochets de viande.
Au secours ! S'il vous plaît, aidez-moi !
L'humain ne va plus. On ne fait plus de différence entre l'humain et l'animal. C'est une Amérique qui a pris acte du fait que l'ennemi vient de l'intérieur. Une Amérique qui s'auto-dévore. Dans Massacre, il y a 3 générations.
Eh, t'as fait du beau travail! Elle est mignonne, hein? Tu vas la fermer, abruti, monte plutôt chercher ton grand-père, hein?
Celle de la dépression des années 30, incarnée par le grand-père à l'état de légumes.
Croyez-moi, vous n'aurez pas mal. Grand-père est bien le meilleur tueur qu'on ait jamais eu.
Celle du Vietnam, incarnée par les comportements ultra-psychotiques des fils.
Un seul coup lui a toujours suffi. Il en a tué 60 en 5 minutes.
Ton père! On va te faire un cadeau, on va te laisser la fille.
Et celle contemporaine.
Dans Massacre à la tronçonneuse, la scène du repas est vraiment une scène fascinante, quoi. C'est la folie à l'état pur, on est dans du Bosch.
Vas-y, frappe là! Frappe cette salope! Allez, frappe!
On est dans quelque chose de viscéral, de cinglé.
Essaye encore, grand-père!
Il n'y a plus d'humanité, c'est de la bestialité.
Ouais, vas-y, encore un coup. Allez, achète-la. Tu vas y arriver, continue, allez.
Tu touches à la démence, t'expérimentes la démence.
C'était un des premiers films où on filme de manière assez réaliste. C'est pas boum, je te donne un coup de couteau, clac, tu t'effondres et tu es mort. C'est boum, je te donne un coup de marteau éventuellement, tu t'effondres mais tu as encore quelques spasmes. Tu ne meurs pas tout de suite, la mort n'est pas quelque chose de facile et d'évident. Tout était assez pénible et long, surtout la scène de fin. On se retrouve sur le on essaie de l'assommer au-dessus de ce seau et ça marche pas.
Maman, qu'est-ce que j'ai qui va pas?
Ce n'est rien, le docteur te l'a dit. Ce sont les nerfs, c'est tout, c'est pas grave. On est d'accord. Continue à prendre des pilules et ça passera, tu verras.
L'Exorciste, 1973. L'Exorciste, La Malédiction, Le Monstre est vivant, Rosemary's Baby. Autant de films qui mettent en scène des enfants ou des adolescents qui veulent détruire le monde.
Rapprochez pas ! La truie est à moi ! Baise-moi ! Baise-moi ! Baise-moi !
Ah ! Au même moment, la jeunesse américaine est en ébullition et bouleverse l'ordre établi.
And I tell you something, the faculty are a bunch of employees.
L'université est une entreprise et nous en sommes la matière brute, mais ils ne feront pas de nous des produits. Nous sommes des êtres humains.
These people want to deny God.
Ces gens veulent nier l'existence de Dieu.
And these people think...
Ils pensent uniquement à ce qu'ils peuvent détruire.
Jésus te pèse!
There's a time when the operation...
Il arrive un moment où le système devient tellement odieux.
Jésus te pèse!
Makes you so sick at heart.
Où il te rend tellement malade.
Laisse-moi.
That you can't take part.
Que tu ne peux pas y prendre part.
Laisse-moi. Enfonce-lui la bite dans le cul.
Freedom of speech is now.
La liberté d'expression est aujourd'hui devenue.
Freedom of filth.
La liberté d'être obscène.
Toi qui baisses ta mère.
Those people told you.
Ces gens vous ont dit.
They were going to physically destroy.
Qu'ils allaient détruire l'université.
Sucheur de queue.
And you've got to put your bodies upon the.
Vous devez vous mettre en travers.
And you've got to make it stop.
Et vous devez l'arrêter. Vous devez montrer aux dirigeants que c'est vous qui décidez.
That unless you're free.
Et que si vous n'êtes pas libre, vous paralyserez le système.
Tout a commencé le jour où certains d'entre vous ont laissé croire aux jeunes qu'ils pouvaient choisir la loi à laquelle ils allaient obéir tant que c'était au nom des idéaux progressistes.
Non, mais tu imagines ça? Ils s'en prennent à nous deux. Ils nous tiennent pour responsables.
Mais c'est nous les parents.
The single deadly purpose.
Leur unique objectif
est
la destruction du pays.
L'enfant est le fils de Satan. Satan est monté de l'enfer pour engendrer un fils d'une femme mortelle.
Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas nous détruire jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils pouvaient nous affaiblir de l'intérieur.
Il renversera les puissants et dévastera leurs temples. Il rachètera ceux que les bons ont persécutés. Il assouvira sa vengeance au nom de tous les brûlés, tous les torturés, tous les damnés. Gloire à toi, Adrien !
Eh oui, de nos jours, les enfants n'attirent que des ennuis. Pour moi, les gens qui n'en ont pas ont une drôle de chance.
Friday, the 13th.
Vendredi 13.
You may only see it once.
Peut-être ne le verrez-vous qu'une fois.
But that will be enough.
Mais une fois suffira.
Nous sommes à la fin des années 70. Débarque sur les écrans Halloween, Vendredi 13, Le bal de l'horreur, Meurtre à la Saint-Valentin, Funhouse, 13 morts et demi, Le monstre du train. Un genre explose alors le box-office, le slasher.
Souvent, les slashers, c'est vraiment du film de drive-in, donc qui s'adresse à un public très large. On sait exactement quelles sont les limites du slasher, c'est-à-dire que tu auras un petit couple d'amants innocents et amoureux qui va essayer de s'envoyer dans une voiture, dans une grange.
Pas ici, on peut nous voir.
Penses-tu ?
Est-ce que Marie embrasse mieux que moi ?
Comment veux-tu que je sache ?
Mentel.
Viens.
Dans ces films, c'est toujours le même scénario. Un tueur solitaire s'en prend systématiquement à des adolescents en chaleur. On pourrait dire que ces films, à leur manière, enterrent une époque.
Au nihilisme et à la passivité des beatniks, les hippies opposent la foi et le dynamisme. Foi en l'homme, dynamisme dans la façon de proclamer la nécessité d'aimer son prochain. Un programme banal en somme, s'il ne s'y ajoutait de coutumes discutables, les hippies sont partisans d'une totale liberté sexuelle et de l'usage de produits hallucinogènes.
Nous avons voulu, tous ensemble, attirer l'attention publique sur un phénomène qui nous atteint tous et qu'il nous faut appeler par son nom, je veux dire le déferlement inouï d'un érotisme désordonné.
On va se faire un strip Monopoly, comme un strip poker. Au lieu de payer avec des bouts de papier, on paie avec des fringues.
Et si tu te dégonfles, tu peux toujours abandonner, tu sais.
Plains-toi, hypocrite, tu vas te taper un superbe numéro de nuit intégrale dans une seconde. Ah.
Then for the younger generation, the lure of course is...
Et pour les jeunes générations, c'est l'amour libre.
Because it makes light of marriage and breaks down...
Ils n'en ont rien à faire du mariage et ils détruisent les institutions.
Tu m'as dit qu'avec moi, tu allais distinguer.
C'est vrai, je te promets.
Instead of love, honor and...
Au lieu d'aimer, honorer et chérir tant que nous vivrons...
Vous allez tous mourir, vous allez tous mourir.
Okay, let's shack up.
C'est amusons-nous, bébé.
J'entends quelqu'un.
As long as you please me sexually.
Tant que tu me plais sexuellement ou que tu payes l'addition.
On faisait rien de mal, on a bien le droit de s'embrasser.
Tu fautes, tu vas être puni, mon gars, et t'es puni. Parce que t'as fauté. D'ailleurs, c'est toujours ceux qui quittent pas, ou les innocents. La vierge ou l'enfant qui ne mourra pas à la fin.
Help! Oh God, help me, please! Hello! Hello!
Et vous retrouvez là une figure classique, me semble-t-il, du prédateur, c'est-à-dire celui qu'on ne saisit pas, qu'on ne voit même pas pourquoi il est là, qui a aucune raison qui nous en veuille et qu'il soit là, mais qui est là essentiellement pour détruire.
Can you hear me? Oh God!
Il y a là une espèce de donner forme à quelque chose de l'ordre de l'irreprésentable au sens humain qui n'existe que pour détruire. Cette espèce d'absolu de la destruction. Or, cette tentative de donner forme à l'absolu de la destruction, c'est une manière de gérer un tant soit peu ce qui est ingérable, à savoir la destruction massive, totale, absolue.
Et aujourd'hui, quels sont les grands thèmes exploités par les films d'horreur ? Dans les années 2000, le zombie revient sous une forme nouvelle, l'infecté. Les êtres humains deviennent des bêtes sauvages ou des morts vivants par simple morsure ou contact. Ce scénario devient le leitmotiv de toute une série de films tels que 28 jours plus tard ou L'armée des morts.
Dès le début, c'était clair, on n'avait jamais vu ça.
Enfin, aux États-Unis, en Floride, la psychose bioterroriste s'étend.
Aux États-Unis, deux cas avérés de maladie du charbon, aussi appelée anthrax, ont été découverts.
Hello! Hello! Is anyone there?
Parce que ça touchait des villages, des petites villes.
Trois cas, dont un mortel, de contamination à l'anthrax ont été diagnostiqués. Aujourd'hui, les Américains ont de plus en plus peur d'être victimes d'attaques bactériologiques.
J'attends vos questions.
S'agit-il d'un virus ?
Nous l'ignorons.
Et puis, on n'a plus rien vu là-dessus à la télé.
De nouveaux cas de grippe aviaire enregistrés cette fois en Mongolie intérieure. Et bonsoir, un premier cas de...
Est-ce que ça se propage par les airs ?
La présence du virus de la grippe aviaire confirmée en...
Vous voyez ça dans la rue, là, dehors ? Ça commençait à rentrer par les fenêtres ?
Aux États-Unis, un troisième cas de contamination par la bactérie du charbon.
Une autre forme de la maladie a été diagnostiquée.
Les experts du Centre de contrôle des maladies ont bouclé...
Ces gens sont vivants ou morts ?
Tenez-le !
C'était un virus.
Nous l'ignorons.
On reparle de la grippe aviaire, mais en Chine, cette fois...
Une épidémie. Pas besoin de l'avis d'un médecin pour le savoir.
Par ailleurs, impossible, nouveau cas.
Et maintenant, un journaliste revenant de Turquie a été hospitalisé.
Et puis des alertes à la maladie du chien.
Ça passait par le sang.
C'est que ce bacille pourrait être utilisé dans une attaque de type...
Il y avait quelque chose dans le sang.
Le ministre a aussi confirmé 5 cas présumés de contre...
Veuillez vous rendre dans les sens d'évacuation. Voici la liste. Pour le comté de Vancassa.
Ils avaient commencé à évacuer les villes qu'il a été trop tard.
Les États-Unis sont de plus en plus persuadés d'être victimes d'une attaque terroriste biologique. 3 nouveaux cas ont également été annoncés à New York.
Restez bien chez vous, verrouillez bien les portes et les fenêtres. Et enfin, les...
La contamination était partout.
Grande inquiétude au Nigeria, le virus.
C'est après ça qu'il y a eu l'exode.
Puis en Turquie, un 15e cas humain de contamination.
Et 31 nouveaux cas d'exposition à la maladie qui provoque la panique en Grande-Bretagne.
La veille du jour, la télé et la radio ont arrêté d'émettre et signalé des foyers d'infection à Paris et à New York. On n'a plus rien entendu après ça. Quelqu'un est contaminé, tu as entre 10 et 20 secondes pour le tuer. Ça peut être ton père, ta sœur ou ton meilleur ami, ça ne change absolument rien.
Y a quelqu'un ?
Au milieu des années 2000, débarque sur les écrans la série des Saw et Hostel, mettant en scène des victimes torturées et suppliciées pendant tout le film.
Vous êtes peut-être dans la pièce où vous allez mourir.
Le torture porn connaît alors son heure de gloire. Et au même moment, en Irak.
De nouvelles images de sévices commis sur des prisonniers d'Abu Ghraib en Irak.
Cagoulés ou baignant dans le sang, attachés à toutes sortes d'instruments. Un détenu se cognant la tête contre un mur, ainsi que, semble-t-il, des cadavres.
Il est mort d'hémorragie multiple, principalement de l'artère fémorale.
Des séances de torture qui ont duré jusqu'à 8 heures.
Des actes d'humiliation sexuelle.
Il s'est lancé à toute vitesse du fond de la cage pour essayer de traverser les barbelés.
Cela faisait partie de la routine et parfois c'était même amusant.
Sur 28 certificats de décès, 7 font état de traces de mutilation et torture.
Ces coupures sont si profondes qu'on a trouvé des sucs gastriques par terre.
Une fabrique à torture pour les uns, un supermarché de la mort pour les autres.
Et cette série de films, REC, Cloverfield, Paranormal Activity, Diary of the Dead, qui recycle l'imagerie amateur, webcam, vidéo, téléphone portable, que nous raconte ce recyclage de l'esthétique YouTube à l'heure où les réseaux sociaux multiplient les atteintes à la vie privée? Et tous ces films comme 2012, Le jour d'après, Je suis une légende, The Road, qui fantasment sur la disparition de notre civilisation. La liste est longue et les thèmes aussi nombreux que les peurs qui nous habitent. Modification génétique de l'humain, explosion de la cellule familiale, disparition de la couche d'ozone, crise économique, invasion des nanotechnologies, fin de la reproduction sexuelle, perturbation de la chaîne alimentaire, surpopulation, fondamentalisme religieux, organismes génétiquement modifiés, perte des acquis sociaux, consommation généralisée d'antidépresseurs, virtualisation du réel, disparition d'espèces animales, pollution cancérigène, allongement de la vie, dénatalité. Et vous, qu'est-ce qui vous fait peur ? C'était Radioscopie de la peur, un documentaire de Guillaume Istas. Prise de son, réalisation, montage et prémixage, Guillaume Istas. Mixage, Pierre Devalet. Voix pour la traduction, David Manet, Michelangelo Marchez, Benoît Luporci et Marie Venin. Un projet sélectionné dans le cadre de l'appel à projet Du côté des ondes, soutenu par la RTBF, la promotion des lettres de la communauté française, la SACD, la SCAM, la SACD France et la SCAM France. Les archives proviennent de la SONUMA. Merci à Noël Godin, Fabrice Duels, Thomas Gunzig, Alex Lefebvre et Axel Clermans pour le temps qu'ils m'ont consacré. Merci à Benoît Liporcy et Marie Vénin pour leur écoute. Merci à Pascal Tison pour son soutien. Une production Axolotl.